Que chacun élève son cœur pour accueillir le Saint-Esprit.
Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement.
Seigneur Saint-Esprit, nous nous humilions pour t'accueillir en cette soirée. Nous nous disposons, notre Dieu, afin que tu règnes d'abord dans nos cœurs, que tu règnes dans ce temple, que tu règnes dans cette cité, que tu règnes même dans ce pays. Notre Dieu, notre Consolateur, viens et enseigne-nous. Nous nous disposons comme un instrument entre tes mains pour partager avec les frères et les sœurs tout ce qui te concerne. Viens et règne au nom de Jésus-Christ.
Dans ton immense amour,
nous nous assurons.
Purifié par le sang de Jésus. Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu.
Le thème de ce soir, c'est suis la direction du Saint-Esprit. Première partie. Nous sommes donc dans le quatrième module, la discipline des vainqueurs. Depuis deux jours, nous avons parlé de la nécessité de s'équiper. Et puis hier, de l'équipement du soldat de Jésus-Christ. Nous abordons ce jour un équipement spécial, à savoir la direction du Saint-Esprit. Dans cette première partie, nous allons parler de qui est le Saint-Esprit. Nous allons voir la nécessité de devenir son compagnon, la nécessité de dépendre totalement de lui, et puis la nécessité de produire le fruit du Saint-Esprit, de manifester le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimés, avant de foncer dans le sujet, je veux planter le décor d'abord. Et pour moi, planter le décor, c'est vous faire comprendre un schéma. À travers ce schéma, vous comprendrez tout l'enseignement qu'on pourra faire sur le Saint-Esprit, que ce soit ici ou en dehors d'ici. Nous allons parcourir les Écritures. Nous commençons par Jean 4, les versets 13 et 14. Parlant à la femme samaritaine, au bord du puits, Jésus déclare, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans ce passage, il y a deux types d'eau. Jésus a parlé de deux types d'eau. L'eau du puits et puis l'autre eau qu'il va définir plus tard. Jean 7, le deuxième texte. Jean 7, les versets 37 à 39. Jésus enseigne au temple. Le dernier jour de la fête des tabernacles. Et il s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'eau vive en question, c'est le Saint-Esprit.
Les yeux fermés,
On appelle aussi cela l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il coule et sort. Cela abreuve. Cela arrose. Cela lave. Cela transporte les navires. Et bien des choses. Comme Jésus dit ici, tant qu'il n'était pas remonté au ciel, l'onction ne pouvait pas descendre. Bien sûr, il a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples avant de monter au ciel. Ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit dans beaucoup de dimensions. Simplement. Et ici, quand il parle de couleron, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est pour signifier que cela ne se passe qu'après quelque chose. Cela ne se passe pas au moment où il parlait. C'est le futur. Cela ne se passe même pas au moment de la nouvelle naissance. C'est bien sûr après. Et dans Ésaïe 12, verset 3, vous lirez, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Il s'agit de l'eau vive du Saint-Esprit. Je vais progresser avec les textes. Ésaïe et Ézéchiel 47, les versets 9, 10 et 12, nous parle d'un torrent qui sort du temple, du sanctuaire, de l'eau qui coule. La différence entre l'eau vive et l'eau morte, c'est que l'eau morte ne coule pas. L'eau vive coule. Voilà la différence. En rassemblant tous ces passages, nous découvrons qu'il y a beaucoup de dimensions d'opération du Saint-Esprit. On décrit ici ce qui se passe dans le temple. Et je voudrais te poser la question, bien-aimé. Qui es-tu? Qui peut me répondre? Qui sommes-nous? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est une description. C'est une prophétie, d'accord. Mais c'est une prophétie à plusieurs niveaux d'accomplissement. Et le premier niveau d'accomplissement, c'est que toi, tu es le temple. Et c'est le torrent dont on parle, ça va couler de toi. Mais Jésus a dit à la Samaritaine, il y a l'eau dans le puits. Mais j'ai une autre eau que quand tu vas le recevoir, ça va jaillir. Ça va devenir une source d'eau, ça va couler comme une rivière et ça va devenir même une mer. Voilà le schéma que je voudrais que chacun comprenne du Saint-Esprit. D'abord, avant qu'on parle de qui est le Saint-Esprit. Cette symbolique de l'eau vive, ça parle du Saint-Esprit. Donc, ça décrit autant de choses que le Saint-Esprit pourra faire dans notre vie. Bien sûr, il y a les conditions. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous recevons le Saint-Esprit comme l'eau dans un puits. Elle n'est pas vive. Elle n'est pas encore vive. Parce qu'elle ne peut pas encore couler. Il n'y a pas le mouvement. Ça, c'est la première dimension. On parle de Saint-Esprit en nous ou avec nous. Ça, c'est la première dimension. Donc, pour bien situer ces différentes dimensions de Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en nous, nous sommes en dimension 1. Et quand nous lisons le texte de Jean 14, versets 16 et 17, ces deux versets nous expliquent que le Saint-Esprit en nous et avec nous, c'est la même chose. Mais généralement, d'habitude, en pneumatologie, dans l'étude de la doctrine du Saint-Esprit, on utilise l'expression avec ou traduit la communion. Bien que le passage de Jean 14, 16 et 17 ne fait pas la nuance entre en et avec. Donc, le Saint-Esprit avec nous, comme il est dit dans Jean 14, traduit la communion et la dépendance de Dieu. Tandis que le Saint-Esprit en nous se réfère à la présence du Saint-Esprit. On parle aussi d'être scellé du Saint-Esprit pour traduire cette même présence du Saint-Esprit qui est en nous comme le cachet que Dieu met sur celui qui a cru en Jésus-Christ. Donc cela renvoie à notre appartenance. Donc la présence, on peut l'exprimer comme le cachet de Dieu qui nous marque pour dire voici quelqu'un qui appartient à Dieu. Là, c'est la première dimension. 2 Corinthiens 1, verset 22, Romains 8, 23. Dans cette dimension, 1, on a des révélations, on peut avoir des visions, des rêves. On peut même prophétiser quand on a le don du Saint-Esprit. Nous avons une autre dimension. C'est celle de la plénitude et du baptême dans le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer ce que j'appelle la plénitude et ce que j'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, je vais le positionner après. Normalement, il devait passer avant. Mais si je place avant, vous n'allez pas bien percevoir la logique qui est entre la plénitude et le baptême du Saint-Esprit. Mais pour faciliter les choses, je vais simplement vous dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est la première plénitude qu'un enfant de Dieu peut avoir. C'est la toute première fois qu'un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Les termes utilisés sont le Saint-Esprit sur ou le revêtement du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, la puissance pour opérer descend sur lui. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé chaque fois que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 2, nous voyons la descente du Saint-Esprit avec puissance sur les apôtres et les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Il s'est déversé sur eux en prenant contrôle d'eux. Et les gens qui les voyaient faire ont pensé qu'ils étaient ivres. Bien sûr, ils étaient ivres, mais pas ivres de vin. Ils étaient ivres du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit avait pris contrôle d'eux. On parle de plénitude du Saint-Esprit ou en utilisant l'expression être rempli du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit en nous qui, en jaillissant, permet aux autres d'observer les manifestations extérieur dans l'accomplissement du potentiel que Dieu a mis en nous. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus parlait que si je te donne cette eau vive, cette eau va jaillir dans ta vie. Il parlait déjà, il montrait déjà la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit, on perd la plénitude. Nous devons entretenir la plénitude du Saint-Esprit. Quand on a les mauvaises pensées, on perd la plénitude du Saint-Esprit. Et pour éviter que le péché vienne nous pousser chaque jour, au fait, l'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça devait être notre condition permanente. Mais comme c'est quelque chose qu'on perd, il faut tout le temps chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, les autres ne peuvent pas bénéficier de l'action du Saint-Esprit à travers vous. C'est quand ça remplit, ça se déverse, les autres en profitent. Vous pouvez manifester la puissance de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a pris contrôle de vous. Ce n'est pas vous qui le contrôlez. C'est lui qui vous contrôle. Nous devons donc prier chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, les manifestations surnaturelles se produisent. Comme on peut lire dans Actes 4, dès le verset 8, dès le verset 31, et nous ne pouvons pas gagner les âmes de façon efficace quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur a fait ça pour nous permettre de le servir avec puissance. Tant que nous refusons de nous mettre dans les conditions pour être remplis du Saint-Esprit, je peux dire que c'est l'un des plus graves péchés. Parce que les conséquences, les âmes qui devaient bénéficier de l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous, ils sont obligés de se perdre. Quelqu'un qui avait besoin d'une délivrance miraculeuse, il ne pourra pas. Parce que nous nous contentons de l'eau dans le puits. Et l'eau dans le puits ne peut servir personne. Est-ce que ça peut pousser une pirogue? Est-ce que ça peut entraîner un bateau? Il faut que ça jaillisse, que ça coule, que ça devienne une rivière, que ça devienne des fleuves. Le Seigneur parle des fleuves, même jusqu'à la mer. Vous voyez que la mer est plus puissante que le fleuve est plus puissant qu'une source. Et la source, mieux vaut être au moins la source. Si vous restez au stade de l'eau dans le puits, vous allez dire, je suis né de nouveau, c'est bien. Mais tu es un nain. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un danger pour les puissants des ténèbres. Dans Actes 4, si nous lisons les versets 31, 34, 35, on nous dit que la terre trembla parce que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Les personnes qui étaient dans le manque, ils se sont trouvés enrichis parce que les gens partageaient les biens entre eux parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est la plénitude qui fait prospérer les gens. Ça, c'était la dimension 2. Et dans cette même dimension 2, j'ai parlé du baptême dans le Saint-Esprit. D'autres peuvent dire du Saint-Esprit. Il se réfère à la toute première plénitude que quelqu'un reçoit en tant qu'enfant de Dieu. Il renvoie donc à l'action du Saint-Esprit pour la première fois. Descendant sur quelqu'un avec puissance comme témoignage aux autres. C'est ce qui avait été promis dans Acte 1. C'est ça qui donne la puissance pour aller évangéliser. Si nous prenons le cas de Pierre, Pierre, parce que rempli du Saint, baptisé du Saint-Esprit, il prêche à 3000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur. En une prédication. Il peut s'accompagner comme à la Pentecôte du parler en langue. Mais il peut aussi s'accompagner de la prophétie. que nous voyons dans Acte 19. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, disons la plénitude, qui donne la puissance pour servir Dieu efficacement. Il donne aussi la capacité de vivre aisément la vie de sanctification. Quand tu as goûté, Dieu t'a utilisé. Tu n'as pas envie de pécher. Tu n'as même pas envie qu'une trace de saleté te touche. Quand Dieu t'a déjà utilisé d'une certaine façon, extraordinaire, surnaturelle, et tu sais que le péché peut t'empêcher d'être encore dans de telles conditions, tu évites. Il y a la troisième dimension d'opération du Saint-Esprit. On utilise l'expression « le Saint-Esprit se saisit d'eux ». Quand le Saint-Esprit se saisit de toi, ou bien on parle de l'Esprit en fleuve, il y a un chant qui parle de l'Esprit en fleuve. D'autres utilisent l'expression « inondation du Saint-Esprit ». Bon, généralement, on utilise aussi le terme « onction ». Mais je voudrais bien dire que l'onction, dès la dimension 2, on est déjà dans l'onction du Saint-Esprit. Même parce que l'eau coule. Et l'eau qui coule là est utile à ceux du dehors, à ceux aux autres. Ça veut dire que l'onction se manifeste déjà à un certain niveau. Mais nous savons bien qu'une source ou une petite rivière, en comparaison avec une mer, c'est la nuit et le jour. Et c'est même ça qui distingue les serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui sont au niveau du puits, il y a ceux qui sont au niveau de la source, il y a ceux qui sont au niveau du fleuve, il y a ceux qui sont au niveau de la mer. Ils ne sont pas la même chose. Dieu ne les utilise pas de la même façon. Donc, passer le temps à se comparer aux autres, c'est Dieu qui donne. Et il le donne de façon souveraine. Parce que la clé, ce n'est pas la clé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu n'entres pas avec ta clé dans l'onction. La clé à l'intérieur, il ouvre, tu entres. Et il opère à travers toi. Mais vous voyez la première dimension. Toi-même, tu tapes les mains. Tu donnes ta vie à Christ. C'est comme si toi-même, tu ouvrais pour entrer. Ce n'est pas la même chose. L'onction, c'est dans la présence de Dieu qui donne à son serviteur d'opérer dans une circonstance précise. On ne peut pas cacher l'onction. Quand il y a l'onction, on ne peut pas cacher. L'onction attire les gens. Ça attire la faveur. Vous croyez quand, au passage de l'apôtre Pierre, quand son ombre guérissait les gens, c'est l'onction. Est-ce qu'il pouvait cacher ça? Quand les gens venaient toucher Paul avec le mouchoir, ou les tissus pour courir, aller chez eux, mettre sur les malades. Et ces malades guérissaient, ils pouvaient cacher. Ils ne pouvaient pas. Généralement, on utilise l'huile et le symbole de l'onction. Mais l'huile, ce n'est pas l'onction. L'huile n'est qu'un symbole. L'huile, ce n'est pas l'onction. Je voudrais dire, bien-aimé, que nous avons tous besoin de ces trois dimensions du Saint-Esprit. Nous voulons être des enfants de Dieu qui ont eu l'eau comme dans un puits, mais que cette eau jaillisse, comme le Seigneur a dit, jaillisse jusque dans l'éternité pour devenir un fleuve, pour devenir une mer. Donc, ne serons pas étonnés que des gens attirent des centaines, des dizaines de milliers de gens. Ce n'est pas la puissance du diable. La puissance du diable n'est pas capable de faire certaines choses. qui est le Saint-Esprit? C'est une personne et non une force. C'est la troisième personne de la Trinité. La Trinité. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments, des émotions. C'est pour ça que tu peux l'attrister en péchant, en faisant le Congo ça. Tu peux l'attrister. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'elle a une pensée, elle a les pensées. Romains 8, 12. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'elle a la volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. J'ai dit, le Saint-Esprit peut être attristé. Ephésiens 4, verset 3. Le Saint-Esprit parle. C'est une personne qui parle. Acte 8, 29. Le Saint-Esprit convainc. C'est-à-dire, il mène un raisonnement. Il convainc une personne. Jean 16, verset 7 et 8. Le Saint-Esprit enseigne. C'est une personne qui enseigne. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit aime. Acte 16, verset 3. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous savons qu'avec une personne, on bâtit des relations. Alors qu'avec une chose, on utilise une chose. Beaucoup ont pensé que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc on peut se saisir et utiliser. J'allais dire que même les démons, quand ils pensent les avoir saisis, ils disent comme les sorciers et les autres font. En réalité, c'est eux qui t'utilisent. Le Saint-Esprit veut la coopération. Une personne qui veut bâtir, qu'on bâtisse des relations solides avec lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a les mêmes attributs que Dieu, le Père, Dieu le Fils. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait toutes choses. Il connaît les profondeurs de Dieu. Si cette personne connaît les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison que des petites profondeurs? C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui continue le ministère de Jésus-Christ. Jésus, en partant, l'a dit. Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur qui va continuer. Bon, il va me remplacer dans tous les sens, puisque c'est mon air. Il a la charge de nous conduire dans le plan de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est une personne avec qui il faut bâtir des relations solides. Et le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il va nous envoyer un compagnon. Ce compagnon, c'est le Saint-Esprit. Deviens le compagnon, dis à ton voisin, deviens le compagnon du Saint-Esprit. Le Seigneur est fidèle. Il a envoyé ce compagnon. Et dans les formules de salutation ou de séparation, nous disons par exemple dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il t'appartient, il m'appartient, bien-aimé, de devenir le compagnon du Saint-Esprit. C'est une personne spirituelle, sensible. Plus tu passes le temps avec lui pour découvrir qui il est, plus tu sauras ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Si tu ne vis pas une relation avec quelqu'un, est-ce que tu peux connaître ses goûts ou ce qu'il déteste? Dans Jean 16, au verset 7, Le Seigneur Jésus l'appelle le consolateur. Paraclétos. On a expliqué même dans le document. Para veut dire tout près. Clétos veut dire appeler hors de. Donc, c'est une personne appelée à se tenir auprès d'une autre personne. Surtout devant un tribunal. Et perçu tel, le Saint-Esprit est l'avocat, le défenseur. Matthieu 10, versets 19 et 20. Il n'y a que lui. Il peut mieux le faire. Parce qu'il connaît tous les aspects de ta vie. Ne croyons pas que Dieu nous fait grâce parce que nous méritons. Non. S'il fallait nous sanctionner à chaque erreur ou péché, ainsi de suite, chacun devait être dans une tristesse constante. Le Saint-Esprit est en toi et avec toi pour te conduire. Mais il y a une condition. Il faut d'abord donner ta vie à Christ. C'est l'affaire des gens qui ont donné leur vie à Christ. Si tu viens seulement à l'église pour attendre le jour du jugement dernier et savoir de quel côté tu te trouves, tu as intérêt à te repentir et confier à Jésus ta vie. Profite donc de cette proximité pour recevoir la direction du Saint-Esprit. Nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Jean 15, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire, déclare le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus désire que chacun de nous porte du fruit. Du fruit qui demeure, à condition de rester attaché à lui par le moyen du Saint-Esprit. La dépendance de Dieu ou du Saint-Esprit se traduit par la recherche de sa volonté pour notre vie. Ça se traduit par l'obéissance à ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Et pour donc dépendre du Saint-Esprit bien-aimé, chaque jour, tu dois te connecter. Connecte-toi régulièrement à travers les moments d'intimité. Nous avons au moins 3 moments de connexion. Il y a le moment de prière. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu se déverse en toi et tu te déverses en lui. Maintenant, nous avons l'habitude d'utiliser les termes « épancher nos cœurs ». Notre cœur, c'est notre esprit. Nous les penchons à Dieu et Dieu de son côté. Quand vous lisez dans Romains, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dans les moments de lecture, de méditation de la parole de Dieu, d'étude de la parole de Dieu, nous connectons. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les applications à faire, à tirer de la parole de Dieu. Parce qu'une chose, c'est lire, méditer, étudier. Mais l'autre chose, c'est tirer les applications. Et là-dessus, beaucoup sont vraiment en retard. Quand vous préparez même une prédication, par exemple, vous devez prier pour présenter votre auditoire au Saint-Esprit. Parce que lui qui connaît les besoins, puisqu'il sonde les profondeurs de Dieu, il connaît les besoins de chaque auditeur qui viendra. Lui seul peut vous dire, touche tel point, touche tel point, touche tel point, ainsi de suite. Si vous ne priez pas pour votre auditoire, vous allez prêcher bien, mais ça ne touchera personne. Donc, Le troisième moyen de connexion, c'est l'écoute. L'écoute du Saint-Esprit, l'écoute de Dieu. Dans nos moments d'écoute, nous dépendons du Saint-Esprit. Et beaucoup de bien-aimés ne sont pas encore habitués à l'écoute. On dit bien qu'on communique avec Dieu. Mais tu ne, même au téléphone, mais pas quand tu communiques, tu écoutes ce que ton interlocuteur dit. Pourquoi voulons-nous seulement prier sans écouter? Est-ce que la communication est unilatérale? Voilà. Donc, tenons aussi compte de l'écoute dans notre vie d'intimité avec Dieu. Plus tu passeras le temps avec le Saint-Esprit, plus tu connaîtras le Père et plus tu affermiras ton esprit, c'est-à-dire ton cœur. Nous allons rapidement passer au dernier point, le fruit du Saint-Esprit. Et dans Galates 5:22, il y en a 9. Donne au Saint-Esprit l'occasion de vivre la vie de Christ à travers ta vie, par les manifestations du fruit du Saint-Esprit. Parlant du fruit, je voudrais dire la chose suivante. Le fruit, c'est quoi? Regardons les fruits prenons l'exemple des plantes. Le fruit est produit par la plante à l'intérieur. Et il se manifeste à l'extérieur, on voit le fruit. Pour nous, il est produit à l'intérieur, il se manifeste à travers notre caractère. Et nous savons que pour la plante, le fruit, c'est l'organe de stockage, c'est le grenier de la plante. C'est là où la plante stocke les réserves. C'est l'organe de reproduction de la plante. C'est l'instrument de résistance. Quand il y a les attaques, c'est l'organe des semences. Voilà l'important du fruit. C'est la manifestation du caractère de Dieu en nous. Et lorsque nous sommes dans les situations diverses, les épreuves, les circonstances, notre caractère se manifeste. Il se révèle. Le fruit se révèle. Regardons l'exemple de Anne. Anne et Pénina. Qu'est-ce qu'Anne n'a pas subi de la part de Pénina? Anne, la femme d'Elkana, Pénina, la femme d'Elkana. Est-ce qu'elle a manifesté un caractère négatif? Non. Aucun caractère négatif. Parce que le fruit révèle notre caractère. Quand nous avons été transformés par Dieu, il nous fait briller. Il montre les bonnes choses que Dieu a à travers la transformation opérée en nous. Dans Galates 5:22, on a cité 9. Parcourons-les rapidement. Il y a l'amour. L'amour dont il est question là-bas, c'est l'amour agapé. C'est l'amour inconditionnel, désintéressé, sacrificiel. Il n'est pas un sentiment. Romains 5, verset 5 dit que Dieu a répandu cela dans le cœur de ceux qui ont cru. Si l'amour ne vous coûte rien, si vous ne perdez rien en aimant, c'est que vous n'aimez pas. Quand on aime, on perd quelque chose. Parce que celui qui aime, il doit sacrifier, soit son temps, soit son matériel, soit il y a plein de choses. Es-tu prêt à sacrifier quelque chose? Es-tu prêt, bien-aimé? Si tu l'es, c'est bien. Parce que ça va te pousser à perdre quelque chose. Mais tu seras enrichi. Dieu va développer en toi ce caractère. Il y a la joie. C'est la joie que Dieu donne. par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie des circonstances que le Cameroun a gagné. On est content toute nuit. Vous voyez qu'après ça disparaît, on retombe dans les situations d'avant, non? Le Cameroun a gagné même 5 fois, mais ces joies-là sont parties, non? Tu as eu beaucoup de diplômes, tu as beaucoup eu de joie. Ou les bébés, beaucoup de joie, mais c'est parti, non? Bon. La joie-ci, ce n'est pas l'autre joie-là. Cette joie-ci, c'est le Saint-Esprit qui fait scintiller ça dans ton cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Cette joie-là s'entretient par des cantiques. C'est pour ça qu'il utilise l'expression vêtement de louange. Quand vous revêtez la louange tout le temps, regardez, observez que quelqu'un qui chante tout le temps n'a pas le temps de penser les mauvaises choses. Hein. Il n'a pas le temps de faire le Congo ça, non? Au marché, partout, à la cuisine, même en étudiant, on chante. Et la parole de Dieu nous encourage à chanter. C'est un choix. Si tu veux, mets-toi-y. Mais si tu veux, ne chante pas. Tu vas avoir les conséquences. Quand ton esprit est abattu, chante. Si tu n'as pas quelque chose qui te donne la joie, regarde les autres, comment Dieu les bénit. Et bénis Dieu pour cela, ça va te donner la joie. Dieu ne permet que 2 tristesses. 2. Quand tu as péché et que tu te repens, ça te fait mal, tu es triste. Ou bien, lorsque tu vois quelqu'un mourir, aller en enfer, parce que tu es incapable de lui faire donner sa vie à Christ. Ça doit être une grave tristesse. Il y a la paix. La paix, c'est la manifestation, la troisième manifestation du fruit de l'esprit. Paix, Irénée en grec, shalom en hébreu. Vous savez que Irène signifie paix, non? Shalom signifie paix. Bon, c'est dans 2 langues différentes. Il s'agit de la paix intérieur que produit le Saint-Esprit. C'est la première chose qu'on expérimente lorsqu'on donne sa vie à Christ. Si quelqu'un a donné sa vie à Christ, il doit se souvenir de ça. Il est lié à la foi que Dieu intervient dans notre situation. Le chrétien est né dans la paix. Tu n'as pas le droit, frère, sœur, d'être troublé, de perdre ta paix. Parce que ça signifie que tu as oublié que Dieu est au contrôle. Tu respires, n'est-ce pas? Tu es très fort pour respirer. N'est-ce pas? C'est pas quelqu'un au contrôle que tu respires. Pourquoi perdre ta paix? Ésaïe 49, verset 16 dit, même si une mère oublie son enfant, l'Éternel ne peut pas tout oublier. Il ne peut pas nous oublier. Donc ce n'est pas la paix qu'on dit que le Cameroun est en paix. Non, ce n'est pas l'autre là. Ce n'est pas la paix politique. 4e manifestation, la patience. C'est une attente calme et paisible, sachant que Dieu va intervenir. Elle est liée à l'espérance et la foi. 5e, la bonté. La bonté, dans d'autres versions, on a traduit par aimabilité. Il s'agit de rechercher le bien et le bien-être des autres. Sans contrepartie, sans penser de bénéfice ou d'échange. Faire le bien pour rien. C'est ça, vous avez certainement observé des gens autour de vous qui font le bien pour rien. C'est la bonté ou l'aimabilité. Il y a la bénignité ou bienveillance. Il s'agit d'aimer le bien, l'intégrité, être incapable de faire le mal, avoir le dégoût pour tout ce qui est mauvais. La septième manifestation, c'est la douceur, celle que produit le Saint-Esprit. Nous connaissons tous la douceur. La huitième, c'est ce qu'on a appelé la foi fruit. Parce qu'il y a la foi qui sauve, qui nous a conduit à la nouvelle naissance. Il y a la foi qui est le don du Saint-Esprit, qui permet que même lorsque tout le monde est découragé, lui il croit. Et après ça se réalise. Mais cette fois-ci, donc il est question ici, c'est la foi fruit ou la fidélité. Il s'agit d'être attaché au principe de l'alliance. Ça parle de la communion avec Dieu, personnelle avec Dieu. Donc, elle est différente des autres fois. La neuvième manifestation, c'est la tempérance ou maîtrise de soi. Celui qui est tempérant est pacifique et conciliant. Il sait se tenir. Bien-aimé, après toutes cette description des manifestations du fruit de l'esprit, nous pouvons dire en conclusion, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Nous le savons tous. Jour de la descente puissante du Saint-Esprit sur les disciples, rassemblés et en prière à Jérusalem. Ceci montre l'importance de la prière. Celui qui ne prie pas sera loin du Saint-Esprit. L'Église est sur terre sans le Saint-Esprit est impuissante, ne fonctionne pas comme Dieu veut, elle ne fonctionne pas bien. Et son combat est perdu, puisque notre défenseur, c'est le Saint-Esprit. Si tu combats sans ton défenseur, tu as déjà perdu la bataille. Nous nous réjouissons de ce que l'Église revient sur ces choses, enseigne sur le Saint-Esprit, encourage les fidèles à vivre sous la direction ou la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimé, deviens le compagnon du Saint-Esprit. Dépends totalement de lui. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est Papa César qui te dit. Hein? C'est Dieu qui te parle maintenant là. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Manifeste le fruit du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour prier. Bien-aimé, sous fond musical. Nous sommes en prière. Je vais donner les sujets de prière. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, sans le besoin de l'être, exprime-le à Dieu. Désire une vie différente de celle que tu vis maintenant. Sans la soif de laisser Dieu opérer dans ta vie. Dis au Seigneur, j'ai soif de l'eau vive. Je veux qu'elle jaillisse dans ma vie. Qu'elle devienne une rivière, un fleuve, qu'elle inonde. Prends des engagements. Engage-toi devant Dieu. Et sépare-toi de tout péché. Renonce à la maîtresse ou aux maîtresses. Millième bureau. Renonce aux amants.
Je te dis oui.
Aux relations illégitimes. Renonce.
Je te dis oui.
À l'argent qui ne t'appartient pas. Mal acquis. Les biens mal acquis, renonce, restitue, engage-toi à restituer. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit,
rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours.
Demande au Seigneur de t'inspirer des cantiques, des chants spirituels à chaque moment de ta journée. De ta nuit. Renonce aux murmures. Renonce aux calomnies. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton esprit, de ton cœur. Dis au Père, j'ai soif. Donne-moi à boire. Remplis-moi d'eau vive.
Répands ton feu.
Demande avec foi.
Dans ma vie. Répands ton feu.
Demande au Saint-Esprit de te fortifier.
Dans ma vie.
Afin que tu obéisses à tout ce que le Seigneur va te révéler. Les jours, il y a des épreuves, il y a les tentations. Demande au Saint-Esprit de te soutenir afin que dans l'épreuve, comme Anne, tu manifestes des bons caractères. Exprime ta disponibilité au Saint-Esprit. Donne-lui la permission de vivre la vie de Christ à travers ta vie.
Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles.
Dis merci au Saint-Esprit. Merci de t'avoir scellé. Pour toujours.
Jésus, tu as les paroles.
Si tu es né de nouveau,
de la vie.
Mais si tu ne l'es pas encore,
moi,
c'est le moment de donner ta vie à Christ.
De la vie. C'est toi que je veux louer. Acquéris en nous.
Seigneur notre
c'est
Dieu.
Toi que je veux chanter.
Notre roi.
Mon roi.
Nous voulons notre Pentecôte.
C'est toi que je veux louer.
Seigneur, déverse sur ton Église
Seigneur,
la puissance de ton Esprit.
Oh, chante Jésus.
Nous voulons rester en prière, ô notre Dieu, comme les disciples dans la chambre haute, et attendre ce déversement. Que l'eau vive jaillisse, deviennent des rivières, deviennent des fleuves et même la mer, l'inondation dans la vie de ton peuple. Glorifie ton Saint-Nom particulièrement dans cette communauté de Tamja. Et que toute la gloire te revienne. Ô notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
guérions-nous, Jésus. Acquérions-nous, mon roi.
Acquérions-nous.
Acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie.
Acquérions-nous.
Tu as les paroles de la vie.
Acquérions-nous.
Tu as les paroles de la vie.
Acquérions-nous.
Jésus-Christ, mon berger.
Acquérions-nous.
C'est toi qui fermes les personnes.
Acquérions-nous.
Toi qui ouvres, personne ne peut fermer.
Acquérions-nous.
Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence.
Acquérions-nous.
Ce qui n'existe pas.
Acquérions-nous.
Tu es mon rédempteur.
Acquérions-nous.
Tu es mon protecteur.
Acquérions-nous.
Tu es mon consolateur.
Acquérions-nous.
Acquérions-nous. Toi qui as les paroles de la vie.
Acquérions-nous.